Chères familles, chers amis, Dieu a rappelé à lui Jean-Marc Strelly, samedi 22 janvier à l'âge de 56 ans. Il s'est éteint au service des soins palliatifs de Collonges-Bellerive, assuré de l'amour des siens, j'en suis témoin, et assuré de l'accueil inconditionnel de Dieu. La famille m'a dit qu'elle tient à remercier publiquement le personnel soignant des HUG et de CITEX pour sa bienveillance et la qualité de ses soins. L'inhumation se tiendra tout à l'heure dans l'intimité familiale et de quelques proches au cimetière de Mérin-Village à l'avenue de Vaudagne, à deux pas d'ici. Nous sommes rassemblés cet après-midi pour honorer comme il se doit la mémoire de Jean-Marc. Nous sommes rassemblés cet après-midi pour entourer ensemble sa famille de notre plus vive affection. Vous, Yulia, sa chère épouse, vos enfants, Nicolas, Stéphane, Émilie, Alicia et Henri-Alexandre, nous pensons à sa maman, Betty, qui aurait voulu être avec nous, mais son état de santé cet après-midi ne le lui a pas permis. Elle s'associe, bien sûr, de tout son cœur à cette cérémonie et nous prenons le soin de l'enregistrer, de faire film ou l'autre, des photos. Et Betty, on pense tout spécialement à vous cet après-midi aussi. Pensons à vous, sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues. Et puis dans la famille proche, j'aimerais saluer Liliane, Lysandre, Mathieu et Johanna. Vous étiez tellement proches. Vous savez à quel point vous comptiez pour lui et à quel point il comptait pour vous. Nous pensons particulièrement aux membres des familles, aux amis qui ne peuvent être présents cet après-midi en raison des circonstances sanitaires. Bien mieux que ce que nos pauvres mots peuvent exprimer, vous savez, chacun, chacune, la place de choix que vous aviez dans son cœur. Même si ces derniers mois, la maladie avait cruellement altéré sa santé. Mais votre mari, votre papa, votre fils, votre tout proche, votre ami est auprès de Dieu. Dieu qu'avec les Écritures que nous chérissons, Dieu que j'entends dire Jean-Marc, Jean-Marc. La route a été bien âpre ces derniers mois. Le voyage n'a pas toujours été facile pour toi. Tu es fatigué, abîmé. Mais entre, entre dans la lumière. Laisse-moi laver tes pieds. Laisse-moi te restaurer. Vois le banquet est préparé. Bienvenue à la maison, Jean-Marc. L'évangile que Jean-Marc avait entendu et reçu, avec toutes les nuances et les réglages que la vie impose, l'évangile nous rappelle que tout ne s'arrête pas à la souffrance, que tout ne s'arrête pas au corps abîmé, au dernier souffle et à la mise en terre. Il y a selon l'Évangile, un après, glorieux et radicalement différent. Pour Jean-Marc, les souffrances induites par la maladie sont finies. Il se repose en Dieu. Il vit ce à quoi nous aspirons dans le fond. Mais vous restez. Vous restez. Il faudra vivre après ça. Reprendre des forces, reprendre des couleurs. Vous restez. Et cet après-midi, et depuis plusieurs jours maintenant, la peine, elle est bien là. Et elle est légitime. Et elle va s'exprimer, elle doit s'exprimer de quantité de façons. Dans ces temps de tristesse, de séparation, chère famille, je tiens vraiment à vous dire ma vive sympathie. Vous êtes dans mes prières. Durant ce service, nous voulons évoquer en quelques mots la vie de Jean-Marc, des souvenirs précieux. Et ce sont ses plus proches qui le feront tout à l'heure avec leurs mots. Accueillez ces mots. Nous écouterons quelques morceaux de musique soigneusement choisis par la famille parce que Jean-Marc les appréciait tout spécialement. Écoutez ce que vous entendrez. En face de la mort, nous voulons affirmer la résurrection de Jésus-Christ qui assure notre propre résurrection. Au moment de la souffrance la plus vive, nous voulons recevoir le soutien d'une famille, d'amis précieux, d'une communauté rassemblée. Dans la peine, devant la mort d'un être si cher, nous sommes aussi réunis pour nous recueillir quelques instants dans le respect des convictions, des consciences et des croyances. Que ce temps vous apporte du réconfort et du courage pour poursuivre la route. J'aimerais prier. Dieu et Père, notre regard se tourne vers toi quand se ferment les yeux de celui qui nous était cher. Cher Seigneur, nos mains se tendent vers toi dans la prière quand restent immobiles les mains de celui que nous aimions. Notre Dieu, notre corps s'incline vers toi dans la peine quand le corps de celui que nous aimions va vers son dernier lieu de repos. Toi qui as créé nos yeux, nos mains, nos corps, aide-nous à vivre de tes promesses réalisées en Jésus-Christ. Elles nous disent qu'un jour tout œil le verra, que nos mains se lèveront pour te bénir et que notre corps sera relevé de la poussière. Nous sommes sensibles, Jésus, à ta bienveillance. Auprès du Père, en ce moment même, tu nous regardes avec compassion. Je te prie de développer cette compassion sur celles et ceux qui sont endeuillés. Que ton esprit vienne consoler nos peines. Amen. Je propose d'écouter une première pièce musicale, Blackbird des Beatles.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. In
to the line of a dark black night.
Nous avons préparé ce service ensemble. Je crois que c'est le premier titre que vous avez indiqué en souvenir de Jean-Marc. C'est maintenant les siens qui vont honorer sa mémoire et je vous invite, si vous voulez bien, à vous approcher peut-être ensemble, vous, sa famille. Je crois qu'il y a Dany aussi qui a préparé quelques mots. Vous pouvez vous approcher simplement. Et puis voilà, à tour de rôle, je me permettrai de vous appeler. Approchez-vous ensemble, venez ensemble. Et Julia, courageusement, que Dieu vous soutienne, mais je crois que vous avez des choses à partager avec nous.
Je n'arrive toujours à pas réaliser qu'il n'est plus avec nous. Mon Jean-Marc chéri, mon doux amour. 14 ans d'amour, ce n'est pas rien. Tout a commencé à Rome, au Vatican, dans la file d'attente, derrière moi, où se trouvait notre cher Jean-Marc. Mais c'est qui ce gentilhomme, à la fois envoûtante ? Demande-je à Marie-Isabelle, mon amie très proche et la chef du corps Pont Vert. On était à Rome pour le 25e anniversaire du chœur. Une jolie histoire qui a commencé. Un homme merveilleux, discret et timide, d'une intelligence rare, avec tellement de qualités humaines et de savoir-faire. Diplômé de l'EPFL comme ingénieur en microtechnique, il travaillait dans une entreprise prestigieuse pendant quelques années. Et puis, il refit des études en psychologie pour mieux comprendre la nature humaine et pour travailler avec des gens et non des machines. En plus de ces deux professions reconnues, sa curiosité et sa nécessité de comprendre les choses jusqu'au fond l'a toujours amené dans d'autres domaines, là où il apprenait tout seul, grâce à sa débrouillardise. Électricien, chauffagiste, plombier, menuisier, maçon, jardinier, mécanicien, chauffeur, toutes sortes de véhicules, tracteurs, broyeurs et pelles mécaniques inclus. Bricoleur de haut niveau, il avait bien besoin de tous ces métiers car dans son domaine, il n'était pas possible de vivre sans toutes ses connaissances. Et puis, Jean-Marc était aussi un artiste, un musicien très fin. Il adorait des morceaux de jazz très raffinés et rythmés. Il jouait très bien au piano des morceaux de jazz et chantait en s'accompagnant à la guitare avec sa belle voix. Il lisait beaucoup et adorait mener de grandes discussions philosophiques sur les sujets d'actualité. On habite, vous savez, dans un paradis à Mira. Dans la maison bâtie sous les instructions de sa maman Betty, entourée d'un grand verger, d'un potager et même d'une forêt plantée par son père Henri, ainsi que Jean-Marc lui-même. J'ai adoré l'idée à cultiver, car cela me rappelait ma jeunesse et les moments passés dans le jardin avec mes parents en Russie. Ce n'était pas toujours facile, mais ça en valait la peine, car les fruits et légumes étaient tous d'une saveur de qualité. Pommes de terre pour toute une année, délicieuses tomates, pommes, fraises, framboises, cerises. C'est le délice de la maille. La plus grande passion de Jean-Marc était la terre. Il a mis des années à améliorer la qualité de la terre du potager en n'utilisant intelligemment que des différents composts naturels. Ce qu'il aimait, c'était les choses simples. Voici un proverbe qu'il aimait bien citer. Le bonheur, c'est désirer ce que l'on a déjà. Voilà où l'on atterrit avec mes trois enfants et ma maman. En 2007, l'année de notre rencontre, j'avais de grandes difficultés. Notre amour m'a sauvée. Ma mère Galina et moi ne serons jamais assez reconnaissants envers Jean-Marc, Betty, tous ses cousins et cousines, Lilian, Daniel, Jacques, Nicolas, Johanna, Mathieu, Lisandre, ainsi que tante Luisette, Philippe, Yves, François. On s'est senti accueillis avec beaucoup d'amour et de joie. Jean-Marc, mon chéri, mon cœur, dans ta maison à la prairie verte, vous nous avez accueillis à bras grand ouverts. Qu'est-ce qui c'était agréable de se sentir aimée, comprise et en sécurité financière. Ma vie était comblée de bonheur à la maison et au travail. Il avait les réponses à toutes mes questions et résolvait tous mes soucis. Un grand homme avec beaucoup de classe naturelle. Il avait un grand cœur et c'est avec sa générosité incroyable qu'il était toujours prêt à aider ses proches et ses amis. Ces 14 ans de bonheur sont passés tellement vite. De petits bouts de strelis sont nés et porteront ton nom et tes traits. On avait de beaux projets pour l'avenir. Tout a basculé en juillet dernier. Cette maladie qui t'emporta à une vitesse foudroyante restera inacceptable à vie. C'est tellement injuste. Tes 6 mois et demi d'enfer étaient aussi en enfer pour nous tous. Maintenant, tu ne souffres plus, mon cœur, et tu reposes en paix sur cette étoile que les enfants t'ont choisie. Tu nous guideras quand nous serons perdus.
Coucou Jean-Marc, je ne sais pas si tu m'entends de là où tu es, mais si tu m'entends, j'aimerais que tu saches que ces paroles te sont adressées. Je voudrais qu'on se remémore tous ensemble certains des nombreux et magnifiques moments passés avec toi. Par exemple, je me rappellerai toujours de nos voyages en Grèce. À chaque voyage, on prenait un moyen de transport différent. On y allait en bateau, en avion, en voiture, en camionnette. Ces voyages étaient tous aussi géniaux les uns que les autres. Lorsqu'on était en Crète, nos journées étaient toutes identiques. On allait à la plage, on mangeait les meilleures pastèques du pays et on collectionnait des coquillages. Sans oublier que nous devions faire la sieste tous les après-midi car il faisait trop chaud pour sortir. On faisait également des débats pour déterminer l'ordre de passage à la douche extérieure. Il y avait toujours une super ambiance, animée par le chant des cigales. Des fois, le soir, on sortait marcher pour visiter des endroits ou admirer le coucher de soleil. Que de mon moment passé avec toi et notre fabuleuse famille. Quand on était à la maison, dans ce magnifique palace que tes parents ont construit, on avait toutes sortes de débats à propos de la vaisselle, des végétariens, des écologistes, et même sur mon prof de maths. C'était des débats quotidiens qui animaient bien nos journées. Quand tu m'écrivais sur WhatsApp, c'était toujours avec délicatesse. Par exemple, quand on regardait la Coupe du Monde de foot, tu m'écrivais « Milouche, amène tes fesses, ça commence !» En été, on t'aidait au jardin, même si c'est toi qui faisais le plus gros boulot. On allumait des jets d'eau pour s'arroser, tu nous accompagnais à la piscine de temps en temps. On mettait la clim à fond dans la voiture et il était interdit de sortir de la maison entre 14h et 16h. Que de bons moments.
Moi, je voulais juste te rappeler notre trajet pour aller en Grèce. En Grèce. On est allés rien que tous les deux. On avait pris la voiture jusqu'en Italie pour prendre un bateau qui s'appelait Anak Lines. Tu n'avais pas réussi à prendre une cabine pour la nuit, donc on avait dormi dans une chambre où il y avait des sièges d'avion et des inconnus. Tu n'arrivais pas à dormir ni dans les sièges ni par terre dans les sacs de couchage qu'on avait pris. Juste avant de se coucher, on avait regardé le magnifique coucher de soleil. Je me souviens d'avoir vu deux dauphins. Papa, perdre son père, c'est comme perdre une partie de soi. Quelqu'un qui a toujours été là, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme perdre son meilleur professeur, celui qui nous a appris tellement de choses. C'est perdre notre meilleur ami, avec lequel on riait tant et faisait des activités toujours aussi extraordinaires. Mais c'est surtout perdre quelqu'un qui a toujours été là pour nous. Ça ne sera pas facile, mais tu m'as toujours dit d'être forte. J'y arriverai, je le ferai pour t'honorer. Car je sais que ce que tu souhaites le plus pour la famille, c'est le bonheur. Comme tu as toujours tout fait pour moi. Je sais, tu n'étais pas totalement parfait, mais je n'aurais pas pu demander un meilleur père. Tu m'as fourni tout ce qu'une fille peut demander, et encore plus, ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, et j'en suis très fière. Je sais, tout le monde croit avoir le meilleur père, mais vous vous trompez, le mien est le meilleur. Je suis certaine que tout ton entourage est du même avec moi. Tu es un homme incroyable. Je t'aime. Ta sourisette qui t'aime plus que tout au monde. Bisous, papa.
Voilà un petit message de la part de ma sœur.
Luba.
Tu as eu une vie avec des moments difficiles, mais qui n'ont pas entaché ta volonté de faire beaucoup pour tes proches. Tu as aussi été présent pour moi quand j'avais besoin. Tu as aussi accueilli Dany, mon amour de France, avec amitié et bienveillance, et avec qui tu as partagé beaucoup de discussions. La maladie a eu raison de toi, mais tu resteras toujours dans notre cœur. Repose en paix, Luba et Dany.
Dany, je peux vous demander, Dany, de vous approcher, s'il vous plaît.
Sœur Julia, chers enfants, chères familles et amis, je m'appelle Daniel. Jean-Marc était mon meilleur ami. C'est à ce titre que je vous adresse quelques mots. En novembre 1991, j'ai quitté la Suisse allemande pour un stage linguistique en Suisse romande. Pour mieux m'intégrer à la culture francophone, j'ai rejoint le chœur Laudate. C'est un chœur de musique sacrée qui venait juste d'être créé à Lausanne par des personnes de mon âge. C'est là que j'ai fait la connaissance de toi, Jean-Marc. Nous nous retrouvions chaque semaine pour des répétitions agrémentées de joyeuses fous rires. Jean-Marc assurait avec sa magnifique voix de basse. Nos concerts nous ont amenés jusqu'au Brésil et même à participer à un concours au Vatican. C'est à Rome, en prolongeant mon séjour avec Jean-Marc, que je l'ai vraiment rencontré. J'étais avide de découvrir tous les monuments et œuvres d'art avec lui. Mais mon effervescence et toutes ces visites ont provoqué une overdose chez toi, Jean-Marc. Il m'a alors appris à m'arrêter, à voir Rome autrement, plus calmement. juste en me mettant au soleil dans un parc avec vue sur la vieille ville. Jean-Marc connaissait l'art de vivre, de contempler. Ce séjour avec lui a signé le début d'une forte amitié. Il m'a appris à me connaître autrement. J'aimais passer du temps avec lui, à discuter de tout et de rien. Il ne parlait pas beaucoup, mais ce qu'il disait avait du sens. Il avait une écoute sans faille. Je me suis senti compris. À ma demande, il partageait son vécu paisiblement. J'étais impressionné par ses diplômes, son savoir-faire. Il avait des capacités techniques d'un ingénieur et l'humanité d'un psychologue. Toujours humble, il ne s'en vantait pas. Son rire franc était contagieux. Lorsque j'ai rencontré Sylvie, mon épouse, nous avons réalisé avec joie que Jean-Marc était un ami commun. En 1999, nous nous sommes mariés et j'ai demandé à Jean-Marc d'être mon témoin de mariage. J'étais très heureux. Ce jour-là, il a fait la connaissance avec toute ma famille. Il a alors dû sortir ses connaissances en allemand, mais avec son sourire incomparable, cela n'aurait même pas été nécessaire. Il établissait le contact immédiatement, même si on lui avait parlé en chinois. À la naissance de ma fille Julia, Jean-Marc est devenu son parrain. Il a alors établi un contact personnel avec elle. À la fin 2004, la perte tragique de sa sœur et de sa cousine dans les circonstances que vous connaissez ont généré une lame de fond dans la vie de Jean-Marc. Discret sur sa douleur, il lui a fallu du temps pour s'ouvrir à moi et évoquer ce traumatisme. Puis Jean-Marc a connu l'amour de sa vie, Julia. En 2010, Alicia est née, puis Henri Alexandre en 2015. Quel plaisir de voir Jean-Marc aussi heureux. Entre-temps, j'ai été opéré d'une tumeur cérébrale. Je n'ai plus pu travailler professionnellement. Il m'a fallu 3 ans pour stabiliser mon état de santé. Jean-Marc est resté présent dans cette douloureuse traversée. Ces dernières années, nous nous sommes vus moins souvent. Jean-Marc et moi n'étions pas encore très aptes à WhatsApp et à autres réseaux sociaux. Il était très occupé avec sa famille, son métier, la maison, le jardin. Mais quand il venait nous voir, il lui arrivait de s'installer spontanément au piano, de jouer quelques notes ou même de chanter quelques strophes de Nougaro, par exemple. Paul, notre fils, se rappelle de ces moments de communion avec la musique. Jean-Marc disait souvent « Merci, les amis ». Les visites étaient intenses, les échanges directs et profonds. Je me sentais en présence d'un ami unique. Et c'était toujours comme si on ne s'était jamais quitté. J'ai été bouleversé par la maladie de Jean-Marc. Je te remercie, Julia, de nous avoir permis, à Julia, Paul et moi, de rendre visite à Jean-Marc à la maison pour lui montrer notre profonde affection. Affaibli, il n'a pas beaucoup parlé, mais il nous a permis de lui dire adieu. Il a paisiblement accueilli nos émotions, nos larmes, nos sourires, notre amour. Jean-Marc, merci. Cela nous a fait du bien. Julia, Paul, Sylvie et moi avons profité de ta qualité, de ta présence, de la qualité de ta manière d'être, de ton écoute attentive, de ton authenticité, de ta simplicité, de ton humour, de ton rire. Jean-Marc, tu étais brillant, humble et discret. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté. Je remercie Betty pour son fils magnifique. Je remercie Julia pour avoir rendu Jean-Marc heureux. Je remercie chacun de ses enfants, les siens et ceux qui sont devenus siens par amour. Avec le cœur Laudate, nous terminions toutes nos rencontres avec le chant « God be with you ». God be with you until we meet again. Dieu soit avec toi jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Jean-Marc, tu es dans nos cœurs. Pour conclure, tu disais « Merci les amis ». Aujourd'hui, toutes tes amies te disent « Merci ».
Liliane, vous voulez vous approcher?
Vous avez mon masque?
Oui, pour ôter le masque.
Cher Jean-Marc, cher cousin, notre ours préféré, nous avons passé de très, très bons moments ensemble et aussi traversé des situations bien plus difficiles à tes côtés. Il y aurait tant à dire sur toi et j'ai envie d'évoquer ta rencontre avec l'exceptionnelle Julia, qui deviendra ta femme. Elle a transformé ta vie après l'expérience douloureuse du tsunami en 2004. Elle t'a donné deux enfants, notre petite princesse Alicia et le petit dernier, Henri-Alexandre. Avec les trois enfants de Julia, Nicolas, Stéphane et Émilie, que tu surnommais Milou ou Milouch. C'est une imposante famille qui s'est retrouvée réunie à la maille au numéro 5. Bien sûr, Betty, ta maman, en faisait partie, ainsi que Galina, l'incroyable Babouchka, la maman de Julia. Pour notre petite famille, à nous, Lysandre, Mathieu et Joujou, tu as été un grand ami, un exemple. On t'adorait. Pour notre chère Betty, ta maman, ma marraine, tu étais tout. Cher Jean-Marc, tu t'es battu comme un lion contre cette terrible maladie et jusqu'au dernier moment. Avec l'aide inestimable de Julia et des cinq enfants, tous vous l'avez soutenu dans ce combat. Et j'ajouterai que Johanna, Joujou, s'est énormément investie auprès de notre ours préféré. Il était une figure paternelle pour elle qui l'a veillée durant sa dernière nuit. Il y avait une tendresse infinie entre eux. Jean-Marc, on ne t'oubliera jamais.
Lysandre.
J'ai envoyé hier un petit mot à Julia. Elle m'a demandé de le lire. J'ai connu Jean-Marc comme un cousin, un ami, avant que j'aie l'âge de partager avec lui des discussions plus passionnantes les unes que les autres sur la société, la sociologie, l'économie, la philosophie, sur notre vie à tous, en fait. Jean-Marc nous aidait à réviser les maths et la physique. J'étais au cycle, je m'en rappelle bien. Il avait beaucoup de bienveillance à tout expliquer. Je me rappelle aussi d'un soir où il nous avait accompagnés au cinéma avec Mathieu et deux copains pour voir un film, la ligne rouge parce qu'on n'avait pas tout à fait l'âge légal. Je trouvais toujours tellement sympa les sorties avec lui. On était à l'aise, un peu comme avec un grand frère qui savait nous montrer le chemin. Jean-Marc avait beaucoup d'expérience. Il savait tellement de choses et il aimait partager. Malgré tous ces moments que nous ne pourrons plus partager avec lui, Jean-Marc sera en fait toujours là, dans nos cœurs, à toutes et à tous.
Johanna ?
C'est une lettre une partie d'une lettre que j'ai écrite à Jean-Marc quand il était à l'hôpital. Mon Jean-Jean, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours passé des super moments avec toi. Étant toute petite, je me réjouissais tellement de passer du temps avec toi, avec vous. Venir dans votre maison m'apportait beaucoup de bien et de bonheur. Pour moi, c'était la maison magique. Un grand espace de créativité où j'ai passé des moments multiples à créer, dessiner, voir au moins 1 million de chats grandir, entendu des sonates de guitare et de piano, créé ma première adresse email, joujoulesbajoux@hotmail.com. J'y ai même écrit ma première BD, Super Poufy, ce chat qui nous aura tant inspiré. J'ai appris avec toi le dur labeur du travail au jardin, planter, ramasser, entretenir, apprendre plein de choses sur tout. C'était des super moments partagés. D'ailleurs, pour moi, tu as toujours été le monsieur qui savait tout faire. Capable de tout réparer, entretenir une maison, un jardin, faire de très bons petits plats, jouer du piano, de la guitare, être un bon geek sur l'ordinateur, et j'en passe. Jean-Jean, un homme blagueur à l'esprit enfantin, avec qui je rigole beaucoup, un ours attachant. Plus tard, vous avez décidé, accepté de m'accueillir pour vivre avec vous. Une période où on rigolait, mais on se prenait la tête aussi. Néanmoins, tu as toujours été là et je t'en remercie beaucoup. À cette période, je me souviens que tu m'avais demandé ce que je pensais de l'idée d'un cadeau que tu souhaitais offrir à une femme. Ça m'avait beaucoup touchée. L'idée de cadeau devait être pas si mal puisque la femme en question, c'était l'incroyable Yulia. De là sont arrivés tes merveilleux et insupportables bouts de chou dont je ne peux plus me passer, sans compter leurs 3 autres terreurs aînées que j'adore. Je continue à passer des moments super à vos côtés dans cette petite famille dans laquelle on se sent comme dans un cocon. Aujourd'hui, Jean-Jean, ce qui arrive est totalement bouleversant. Je pense que le plus dur, c'est de se sentir impuissant pour que tu te sentes bien. Je ne peux même pas imaginer comment tu te sens et ce que tu ressens. Tu ne te plains que très peu, et pourtant ce n'est pas la première mésaventure que tu vis et dont je pense qu'on ne peut imaginer le poids. J'ai toujours beaucoup apprécié ces moments à discuter avec toi, à rigoler, à refaire le monde, à être d'accord ou pas d'accord. J'aime beaucoup partager avec toi. Tu as été pour moi dans ma jeunesse, car oui, maintenant je suis vieille, et tu es toujours une figure masculine et paternelle de ma vie très importante. Je te remercie pour tout et je t'aime très fort. Joujou les bajoux.
Nous allons maintenant entendre un deuxième morceau de musique, Aguas de Marco. Et voilà, on va laisser résonner en vous le bel hommage que vous avez rendu à Jean-Marc. Merci d'avoir pris le soin de le faire.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o lance, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, canga,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo.
Ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o
é um pedaço de pão.
É o fim do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estresse,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingado,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando.
É
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
ponte,
corte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
Padaba,
Padibadiza,
Zazaziza,
Azada Mienha,
Azadebe,
Azadebe.
Quand nous nous sommes vus pour préparer ce service, la famille, nous sommes vite tombés d'accord sur un texte court, je ne serai pas long. Un texte qu'on trouve dans ce vieux livre qu'est la Bible, dans un livre formidable qui réfléchit au sens de la vie, dans le livre de l'Ecclésiaste. Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai considéré les occupations pénibles que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'éternité. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher. Dieu agit comme cela afin que les êtres humains reconnaissent son autorité. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, s'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » C'est absurde ce moment, cet après-midi. C'est absurde. À nos yeux, et en vous écoutant peut-être encore plus, Jean-Marc, votre mari, votre papa, beau-papa, votre fils, votre proche, votre ami, Jean-Marc nous a quittés beaucoup, beaucoup trop tôt. Ces derniers mois, La maladie et les limitations qu'elle impose ne lui ont pas permis de jouir pleinement de la vie. Il en aurait eu le droit, il en avait l'envie. D'autres circonstances bien âpres l'avaient frappé, en particulier lors du tsunami de 2004 qui avait emporté sa chère sœur Carole, très engagée dans des projets humanitaires. Et nous trouvons cela profondément injuste et absurde. Et l'expérience de la vie montre que la mort frappe sans distinction les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les sages et les insensés, les justes et les injustes. C'est absurde et intolérable. Un poète a écrit « L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus et la voilà disparue. » Et puis ce n'est pas que de la poésie, parce que nous constatons que la vie est tellement fragile, qu'elle passe tellement vite et ça fait mal. Ce vieux livre qu'est l'Ecclésiaste le dit donc aussi, dans les aléas de l'existence, nous avons tant de peine à trouver une logique, un sens. Tout peut arriver à tous. C'est absurde. Et nous pouvons légitimement, non seulement nous en émouvoir, mais encore nous révolter. Il y a un certain réalisme dans la Bible. Et si ce réalisme est présent dans ce que Dieu a voulu nous révéler, c'est, je crois, humblement, hein, je peux me tromper, mais pour nous amener à vivre sans trop d'illusions et en même temps avec une réelle espérance. Sinon, à quoi ça sert? Il y a Dieu, mais Dieu ne nous fait pas vivre dans une bulle. Je tire trois observations du court texte que j'ai lu en Ecclésiaste 3. La première observation, c'est que dans une vie fragile, où tout peut arriver à tous et toutes, et où franchement nous ne comprenons pas grand-chose, ni au début ni à la fin de la vie, dans cette vie, ce texte dit que Dieu a mis en nous le sens de l'éternité. Le vague sentiment que cette vie-là n'est pas tout. Une certaine insatisfaction par rapport au présent, à sa dureté, à ses exigences, à ce monde qui tourne en rond. Une aspiration à la permanence, à la transcendance, à la durabilité. L'être humain fait donc partie de cet univers matériel bien tangible, mais en même temps, il est différent de lui, puisqu'il est lui seul fait à l'image de Dieu. Comme s'il y avait quelque chose en nous qui ressemble à Dieu. Et il y avait quelque chose en Jean-Marc qui ressemble à Dieu. Comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Pas sous nos clochers, mais dans une certaine habilité à aimer, à créer, à jouer, à gérer, à entrer en relation, à se remettre en question. C'est bien ce qui fait que la mort des plantes et des animaux nous semble assez naturelle, mais que la mort d'un homme juste nous accable, nous attriste, nous semble complètement anormale, absurde. Le sens de la vie, donc. La quête de l'éternité qui s'impose à nous. Et Jean-Marc y avait réfléchi. Et je ne pense trahir aucun secret cet après-midi en vous disant qu'au soir de sa vie, il m'a dit à quel point cela reflétait la vérité des choses. Le fondamental, avec ce désir de prier plusieurs fois le Notre Père, on était à la maison. La quête de l'éternité, donc, qui est très souvent en contradiction avec ce que nous vivons, vous et moi, de façon concrète, incarnée, matérielle, tout en nous résiste à ça. La quête de l'éternité, comme le souvenir enfoui de jours meilleurs, des origines du monde et de notre ultime destinée. Nous aspirons à autre chose. Nous ne nous contentons pas de ce que nous vivons ici-bas. Dans une vie fragile, où tout peut arriver et où nous ne comprenons ni le début ni la fin des choses, Dieu a mis en nous le sens de l'éternité. La deuxième observation que je tire de notre texte, c'est qu'il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Je me rends compte, quand j'écris ça, que ça ne correspond pas forcément à notre idée de la religion chrétienne. Et pourtant, c'est le message le plus fort de l'Ecclésiaste. Il faut profiter de la vie. Puisque demain ne nous appartient pas, sachons apprécier le jour d'aujourd'hui et ses plaisirs tout simples. La musique, le manger, le boire, le travail, l'amitié, l'amour, la nature, l'art, la culture. Il faut en profiter. Et pour ce que j'en ai entendu, tant que la santé lui a été prêtée, Jean-Marc ne s'en est pas privé. Et il a eu bien raison. Même lors du dernier séjour aux HUG, il a dit à quel point il appréciait une brioche avec un peu de confiture. Ma troisième observation, celle que je retiens finalement de ce passage, c'est que par-delà l'aspect incompréhensible de la vie et puis de ses plaisirs tout simples, ben, il y a un Dieu créateur, un Dieu qui convient de respecter, de révérer, d'apprendre à connaître, peut-être en tâtonnant. Bienvenue au club. La quête de l'éternité, les joies de la vie, le respect de Dieu. Tout cela a été dit des centaines d'années avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a bien pu apporter de plus, Jésus ? Alors un mot qui est fort dans nos circonstances, il a apporté la certitude de la résurrection. Pas une vague espérance, la certitude de la résurrection. Il a démontré dans son corps même que tout ne s'arrête pas au cœur qui cesse de battre, que tout ne s'arrête pas autour d'un cercueil, que tout ne s'arrête pas autour d'une tombe, qu'il y a un après. Quelques jours avant de mourir, le Christ a donc dit ces paroles. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » C'était facile à dire, mais la promesse a été validée le jour même lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Et surtout, la promesse a été validée encore un peu plus tard lorsque le Christ lui-même est ressuscité et que les disciples l'ont vu. Et qu'après avoir vu sa résurrection, ils nous ont fidèlement, croyons-nous, transmis leur témoignage pour que l'espérance de notre propre résurrection ne soit pas de l'ordre d'un vague espoir, mais de la certitude qui traverse une vie. Qu'est-ce qui se passe dans les derniers moments de la vie? Personne ne peut le dire avec assurance. Ce moment-là, il est sacré, il doit être entouré du plus grand respect. Ce qui se passe entre un homme et Dieu, ce n'est pas à nous d'aller le deviner. Mais nous pouvons dire ceci. La personne qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçue. Jamais. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Amen. You are the sunshine of my life, Stevie Wonder. Notre service touche presque à sa fin. Dans quelques instants, vous pourrez rendre les honneurs en passant devant la famille. Et nous vous invitons à exprimer votre affection les uns aux autres par un geste, un arrêt, une parole. Nous commencerons par l'arrière de la salle et je vous invite simplement à remonter par l'allée latérale qui est sur votre gauche, puis ensuite pour sortir soit par le couloir central, soit par l'allée latérale sur votre droite. Après les honneurs, la famille accompagnée des proches se rendra au cimetière de Mérin-Village pour l'inhumation. La famille vous invite ensuite à un verre de l'amitié au Arte Café sur la place de Mérin-Village, sur votre gauche, ce dès 16 heures environ. En attendant, nos locaux, les extérieurs, restent bien sûr à disposition. Comme indiqué sur le faire-part, il est possible de faire un don à l'association Kaliki. Je me suis permis d'aller faire un tour sur le site internet et je recommande vivement ce projet choisi par la famille. Association Kaliki qui permettra de financer l'achat de matériel pédagogique en faveur d'enfants à Cali, en Colombie. Un projet formé en collaboration avec Terre des Hommes et l'Université de Genève. Avant que nous rendions les honneurs, je vous invite à dire la prière que le Seigneur a laissée, puis j'invoquerai sur nous la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever si vous en avez la liberté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la bienveillance du Seigneur, qui se renouvelle chaque matin, vous soutienne, vous garde, vous protège, vous accompagne. Allez dans la paix. Je vous invite à vous rasseoir, la famille. Pouvez-vous tenir debout, peut-être, pendant ce temps d'honneur ? Nous entendrons trois très beaux morceaux de musique et je vous invite simplement donc à rendre les honneurs en commençant par le fond de la salle et en empruntant l'allée latérale. Merci.
How deep is your love? 'Cause your love found deep. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich, elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. La pluie, avec elle je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. À force de rasade, de tournée des grands ducs, je flotte en eau gambade, la pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud.